BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, tout le monde vous annonce que c'est la fin du monde, parce que c'est comme ça qu'on fait dans les médias, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Ah, c'est vraiment exceptionnel là ce qui se passe. Vous pouvez pas dire le contraire, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la finance, que ce soit sur vos placements, que ce soit sur les marchés. On vient de vivre une semaine absolument folle et puis on a décidé ici de faire un peu une émission au-dessus des nuages, au-delà du bruit. On va essayer de sortir de l'ambiance d'hystérie générale dans laquelle tout le monde s'est mis pour essayer de se projeter et essayer de se dire à quoi ça va ressembler le monde d'après. Après quoi ? Eh bien le monde d'après les négociations sur les droits de douane, parce que je suis convaincu qu'il y aura des négociations sur les droits de douane. Alors au sommaire aujourd'hui, on va faire un challenge, ça sera pas le mot de la semaine. On va demander à mes invités de choisir leur Trump. Oui, à plusieurs figures de Trump. Bon, évidemment, dans la presse française, on ne parle que de Trump, le fou, l'irresponsable, qui n'aurait pas de plan, qui ne comprendrait rien, qui ferait des calculs primaires. On va savoir si c'est la version et la vision de Trump qu'ont nos invités. La question macro, c'est justement de se projeter. Si les négociations aboutissent, si on arrive à des droits de douane entre 0 et 20%, 0 pour certains pays, certains produits essentiels, et puis 20% pour les autres, à quoi va ressembler le monde, l'économie américaine, l'économie mondiale ? Et puis, en deuxième partie de l'émission, évidemment, dans cette projection, alors pas simplement à 9 mois ou à 6 mois, mais déjà à partir de la semaine prochaine, où est-ce que va aller la bourse après le séisme des derniers jours et puis la remontée qu'on a connue ? Les questions d'argent, justement, dans cette période, qu'est-ce qu'on fait ? On a des questions tous les jours de gens qui nous disent, qu'est-ce que je fais de mon argent dans cette période de dislocation et d'agitation ? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, alors surtout pour cette émission-là, qui est plus qu'exceptionnelle, il faut des invités plus qu'exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors elle est claire, limpide, didactique, des qualités précieuses dans le brouillard actuel. Anna Boata, merci d'être venue.
Merci, vous m'avez merci expliqué pour l'annonce, présentation.
Vous m'avez expliqué des choses très importantes sur l'inflation, je me rappelle encore, directrice de la stratégie macroéconomique d'Alliance Trade. Alors lui, on avait besoin de lui, avec ce qui se passe, la bourse qui monte, puis qui s'effondre, et puis qui remonte. On avait besoin de l'homme aux lunettes roses qui va nous donner la couleur de la bourse.
Ah, la couleur. Bonjour Marc, j'abandonne les lunettes roses.
Non.
C'est un produit chinois bas de gamme, fini la mondialisation, et j'ai demandé à mes étudiants pour mon anniversaire, mes étudiants à l'ESSEC, de m'offrir une superbe cravate rose que vous allez admirer pendant toute cette émission.
Et vous êtes sûr qu'elle n'est pas fabriquée en Chine ?
Elle est pas mal. Non, justement. Et c'est ça la solution, c'est un made in France. Elle est très chère, mais elle est très belle.
Alors,
c'est l'effet Veblen que je vous rappellerai.
Donc vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. Il connaît les valeurs familiales par cœur. C'est comme ça d'ailleurs qu'il s'était fait une réputation. Et à sa propre lecture du tumulte actuel. On peut dire ça, non Sébastien ?
On peut dire.
Vous êtes directeur général et des investissements de Cogefi Gestion. D'abord, merci d'être venu. Et merci, on attend de voir ce que vous allez dire. Vous allez devoir choisir votre Trump.
Absolument.
Vous êtes prêt ?
Complètement prêt.
Suivez-le. Lisez-le sur les réseaux sociaux et vous comprendrez tout. L'économiste qui murmure à l'oreille des dirigeants d'entreprise, c'est Denis Ferrand. Toujours un plaisir de vous avoir, Denis. Vous êtes directeur général de Rexecode et surtout, on apprécie le fait que vous soyez venu alors que vous allez vous marier dans quelques heures et c'est pour ça que vous êtes en costume trois pièces.
Exactement, oui.
Bon, on félicite la heureuse élue.
Elle n'est pas encore au courant.
Elle n'est pas au courant. D'accord. Ben, il faudrait quand même lui dire parce que ça s'organise un peu.
Oui.
En tout cas, vous êtes habillé pour.
Exactement.
C'est magnifique. Allez, on y va tout de suite. C'est le challenge de la semaine. Je vais vous demander, madame, messieurs, de choisir votre homme. Ben oui, qui c'est celui-là ? Il a la manœuvre. Il a évidemment surpris tout le monde en se lançant dans une surenchère de droits de douane malgré les conséquences sur l'économie et les marchés. Et l'avenir va dépendre de vrai Trump. Alors, qui est Trump ? Totalement incontrôlable, c'est la version numéro 1, fou pour certains, faisant n'importe quoi au gré de ses humeurs pour d'autres. Ça, c'est la version globale du consensus et de l'hystérie collective. Dogmatique, il aurait une vision. Alors, une vision, on entend beaucoup parler de sa vision de l'Amérique protectionniste du 19e siècle, pourquoi pas. Et pragmatique, ceux qui pensent qu'il applique tout simplement ce qu'il a écrit. D'abord son programme, il a tout dit. Et puis les règles de The Art of the Deal, des droits absurdes pour obtenir un bon deal. Alors on va faire votre choix, je vais commencer par vous Anna. C'est qui pour vous le Trump ? C'est quelle version ?
Ben, je pense que c'est une version plutôt la dernière, The Art of the Deal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y va fort pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais c'est quand même aussi une version du passé. Parce qu'il nous explique quand même avec beaucoup d'enthousiasme ce qui s'est passé avant les années 30, avec les droits de douane très élevés, avec tout ce qu'ils arrivaient à collecter en termes de taxes pour ensuite redistribuer. Donc il y a quand même aussi cette version du passé, plus les accords de Plaza, on le sait, on le lit, la dépréciation du dollar, avoir des acheteurs de cette dette américaine à vie, perpétuelle. Donc il y a quand même aussi une inspiration du passé, un passé qui est forcément différent du présent et encore plus du futur. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut quand même voir le choc qu'il apporte sur l'économie américaine. On n'en parle même pas des marchés.
Choc à court terme.
Un choc à court terme pour quelque chose qui est quand même, pour revenir au premier Trump, idéologique, dogmatique. Puisqu'en fait...
Donc vous dites, c'est le deuxième Trump, vous dites qu'il est dogmatique.
Il est un peu, il a un petit peu tout. C'est ça ce qu'il faut. C'est un cocktail de beaucoup de choses et il essaie de tester pour voir ce qui se passera. C'est un petit peu ça ce qu'on voit. C'est vraiment une méfiance au regard de tout ce qu'il peut annoncer et tout ce qu'il peut faire. Puisqu'il faut quand même se rappeler d'où on part. On part d'une taxe à l'importation pour les produits importés aux États-Unis de 2,5%. La semaine dernière, on arrivait à au-dessus de 30%. Aujourd'hui, on est à 25, et peut-être à la fin de l'année, on sera à 10. Et pour la Chine, effectivement, on est à 130. 130 quand on prend et on fait tous les calculs. Donc effectivement, est-ce qu'un consommateur américain pourra se permettre de pouvoir payer plus que le double pour un produit importé de Chine ? Certainement non. Donc la question se pose et il le comprend aussi. Donc il a bien vu les réactions de marché, mais il a bien compris aussi que ce n'est pas du tout soutenable. Donc c'est intéressant de voir qu'il revient sur ce qu'il fait pour permettre des portes de sortie. The Art of the Deal, on en aura. Mais pour l'instant, avec ces 3 mois, ces 90 jours de pause sur ces hausses de tarifs, par exemple sur les marchés que la Chine utilise pour pouvoir réexporter aux États-Unis, on n'est pas à 40% pour le Vietnam, on est plutôt à 10%. Donc c'est ça en fait la porte de sortie qui va empêcher qu'on ait une récession très forte aux États-Unis et une inflation beaucoup trop forte.
On va se projeter sur l'après, Denis Ferrand, l'irresponsable. Le pragmatique ou le dogmatique ?
Le dogmatique, pragmatique et nombriliste. Hyper nombriliste, évidemment. Bon, bah, ça, on le savait. Oui, hyper. C'est le mot hyper nombriliste
qu'il faut mettre. Mais je me sens hyper nombriliste.
Oui. Non.
Donc je partage ça avec lui.
Mais vous vous soignez très bien.
Oui, très bien.
Oui, non,
et en plus, je le sais, donc c'est pas de problème.
Non, mais c'est vrai que c'est le côté dogmatique parce que il y a quand même, c'est pas du tout un comportement erratique, un comportement de fou. C'est quelque chose qui est très déterminé. Quand on regarde des vidéos assez anciennes dans lesquelles il s'exprimait, il y a quand même toujours une colonne vertébrale qui est à peu près la même. Une colonne vertébrale d'ailleurs qui rencontre aussi un moment américain parce que ce que Trump fait, c'est pousser à l'extrême ce que Obama a commencé à faire. Ce que Trump 1 a poursuivi et ce que Biden a fait avec
l'Ira,
qui était un peu différent, mais qui a toujours la même logique, relocaliser de la production aux États-Unis. Là, c'est poussé à l'extrême au travers de cette approche dogmatique. Et puis pragmatique parce que c'est un peu the art of the deal, oui. C'est aussi jouer sur ce que l'on appelle les biais d'ancrage. C'est ce que Anna vient de décrire. On fait peur tout d'abord au Canada en disant de toute façon vous allez devenir le prochain État américain, on vous annonce des droits de douane très élevés, et puis finalement ça rend tout à fait acceptable le fait que l'on passe à 16,7%, c'est ça, de droits de douane désormais, alors qu'on était à 6,5 auparavant.
C'est ça qui est fort.
Mais c'est quand même une augmentation de 10 points.
Ce qui est très très fort, c'est que on nous aurait dit 16% ou 20% il y a 3 mois, on aurait hurlé.
Ouais.
Et là quand on vous dit 100% et qu'on descend à 16, vous dites ah là, c'est une super bonne nouvelle.
Ah oui, mais c'est le biais d'ancrage. On a tellement cette idée qu'on allait monter très haut que, ah ben non, finalement, ça va. Et regardez les commentaires sur les plateaux, les plateaux médias. Il n'y a plus de droits de douane sur les Européens. Mais non, pas du tout. Il y en a toujours. Et effectivement, ça va remodeler fondamentalement l'économie mondiale parce que, à la fin, et c'est là que l'on retrouve la dimension dogmatique, il veut qu'il y ait un nouvel équilibre dans cette économie mondiale.
Sébastien, lequel des trois ?
Alors, je dirais pas dogmatique, je dirais utopique, c'est-à-dire qu'il veut retrouver l'Amérique d'antan et il s'appuie sur des recettes du passé qui sont liées au passé, qui sont pas, qui ont 200 ans derrière nous, que ça soit les droits de douane, le financement de l'État américain, que ça soit même la vision un peu impérialiste, hein, avec McKinley par exemple, d'aller reprendre le canal de Panama ou le Groenland, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui est plutôt utopique, mais c'est un pragmatique parce qu'il a réellement un plan, j'en suis assez convaincu, un plan à court terme, assez audacieux, assez disruptif, notamment celui de dire à ses électeurs, je vous ai promis quelque chose, notamment les baisses d'impôts, et il a parlé à tout le monde à Davos. Davos, c'est la porte-parole, là où on fait du tam-tam dans le monde entier. Il a dit à tout le monde, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais baisser les impôts, ça va être l'âge d'or. Et il va les baisser. Mais pour les baisser, il faut qu'il torde le bras à tout le monde parce que les conditions qu'il a rencontré en arrivant au pouvoir ne permettait pas de baisse d'impôts. Donc il est là, il est pragmatique. Et puis il y a une part d'improvisation parce que c'est quelqu'un qui réagit à des choses qu'il n'a pas forcément prévues. Il a le point d'arrivée, mais il n'a pas le plan. Il réagit au coup par coup.
Mais il a le point d'arrivée pour.
Mais il a le point d'arrivée.
Je suis assez d'accord avec ça, Christian.
Très dogmatique, très pragmatique, mais je rajouterais tout de même grossier personnage. Dans
non, ça d'accord,
depuis une semaine,
on est tous d'accord.
Il nous garde, okay. Oui, mais il froisse les Chinois. Le caractère des Chinois est très froissé par ces insultes répétées.
Attendez, je voudrais m'arrêter
c'est
là-dessus.
C'est important.
On s'en fout de froisser les Chinois. Ils nous froissent depuis 25 ans.
Ah non.
Mais vous pouvez pas dire ça. C'est-à-dire quand les gars menacent le Taïwan, sont en train de flinguer notre industrie automobile européenne, quand ils font du dumping, quand ils respectent aucune règle, quand ils mettent des réglementations qui empêchent. Je veux dire, c'est la pire des insultes.
Oui, mais parce qu'on l'a voulu, la mondialisation. Donc on l'a, il faut savoir s'adapter. Et insulter les Chinois, c'est un point dont on va parler lourdement sur les marchés. Aujourd'hui, ce n'est pas la baisse des indices qui nous fait peur, c'est ce qui se passe sur le marché de la dette américaine.
On va en parler tout à l'heure.
Donc ça, c'est
dogmatique, pragmatique.
Dogmatique, pragmatique, parce qu'on a fait un calcul très simple. J'arrondis les chiffres, si vous permettez. 3 000 milliards d'achats d'importations aux États-Unis. Oui. Il se dit, si je mets 20% dessus, ça me fait 600 milliards de dollars de récupérer. 20% additionnel. Au passage, actuellement, on est à un taux moyen d'à peu près 22%. C'est-à-dire, si je fais les 10, plus sont 25% maintenus sur les voitures, l'aluminium, l'acier, plus sont 145% sur les âges. On arrive à 22%. Donc, il se dit, là, j'ai 600 milliards de dollars. De l'autre côté, et ça avance bien, il a demandé à Elon Musk, avec son programme Doge, de trouver 400 milliards de dollars. Il retrouve ces 1000 milliards de dollars par an qui lui permettront son programme de baisse massive des impôts d'à peu près 4000 milliards de dollars sur 5 ans. En gros, à peu près les chiffres. Il est en train d'y arriver, donc il est assez pratique et il applique ce qu'il avait dit, en fait.
Voilà. C'est ça que ma grosse surprise, c'est qu'on dit il va n'importe où. Il a écrit son programme est là. Et en plus, il a expliqué dans son bouquin de façon extrêmement basique comment il négocie. On propose n'importe quoi. Et puis, on essaye d'obtenir un chiffre. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on sait comment il fonctionne. Denis, très rapidement.
Peut-être un chiffre sur la Chine, dont on vient de parler. Il y a eu un travail du FMI il y a 2 ans qui a montré que 60% des dispositifs de subvention dans le monde étaient le fait des Chinois.
Ben oui.
Donc, on n'est pas dans du fair trade.
Mais c'est ça qui me rend dingue. Ouais. C'est-à-dire que j'entends partout, c'est la fin du libre-échange. Mais il n'y a jamais eu de libre-échange
avec les Chinois, non,
clairement. On a fait rentrer le loup dans la bergerie, en les faisant rentrer dans l'OMC, et maintenant, on dit, c'était le libre-échange. Alors justement, j'arrête, je vais vous laisser parler, désolé. On va se projeter maintenant, dans quelques semaines, dans quelques mois, l'économie, ils sont mis d'accord, il est allé jouer au golf à Mar-a-Lago avec Xi Jinping, et on a des droits de douane entre 0 et 20%, allez, on va dire entre 10 et 12,5% en moyenne. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'aimerais qu'on essaye d'expliquer aux gens qui nous écoutent, qu'on leur explique exactement à quoi va ressembler l'économie mondiale américaine et européenne si on a des droits de douane de 10 à 15% de différents. Commençons par l'économie américaine.
Alors, l'économie américaine encaisse déjà un choc de prix, spontanément. Un choc de prix par l'augmentation des droits de douane qui, de toute façon, ne sera pas pris intégralement dans les marges des exportateurs.
Mais en partie.
En partie. En partie, il y en aura un peu dans les marges. Mais on l'a vu, par exemple, avec Walmart, qui s'est fait tordre le bras au moment d'aller demander à ses fournisseurs chinois de baisser les prix. On dit, débrouillez-vous, c'est à vous, Walmart, sur les ventes aux États-Unis, de prendre dans vos marges. Donc, va y avoir un équilibre entre la hausse des prix pris par les consommateurs, la baisse des marges des distributeurs aux États-Unis et la baisse des marges chez les exportateurs à destination des États-Unis. Comment se fera l'équilibre entre ces trois parties? Ça, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, ça fera un choc d'inflation, en tout cas un choc de prix.
Alors, je vous arrête une seconde. Jean-Marc Daniel dit qu'il n'y a pas d'inflation s'il n'y a pas de hausse durable des prix. Là, on va avoir un choc de prix, mais on n'aura pas un choc d'inflation.
Exactement, un choc de prix, tout à fait.
Ça veut dire qu'on peut avoir une augmentation des prix ponctuelle pendant quelques mois,
oui.
Et ensuite, l'inflation, un peu comme il s'est passé après l'Ukraine, redescendra.
Oui, tout à fait. C'est
un choc d'offre.
Tout dépend si on a un enclenchement ou pas, mais il n'y aura pas forcément de place pour qu'il y ait un enclenchement. L'inflation, c'est vraiment un processus. Le choc de prix, c'est un événement exogène qui vous relève le niveau de vos prix. L'inflation, c'est un processus où les hausses de prix, de salaire et de l'ensemble de la structure de
prix. Donc c'est une première correction à apporter à tout ce qu'on entend. Il peut ne pas y avoir d'inflation, mais il peut y avoir un choc de prix comme on a eu avec l'Ukraine.
Exactement.
Ok, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, sur la croissance.
Alors, sur la croissance, ce choc de prix, de toute façon, il faut le prendre quelque part. Donc, vous aurez un atterrissage, vous aurez moins de consommation au niveau des États-Unis qui interviendra et vous aurez, de ce faisant, un peu moins de croissance. Attention quand même sur le choc de prix, le fait que les exportateurs, qu'il y ait ces droits de douane, vont donner un petit peu plus de place aux producteurs américains qui étaient en concurrence avec des exportateurs qui venaient sur le territoire américain. Et donc, vous pouvez quand même avoir des hausses de prix qui passent pas seulement par les droits de douane, mais également par des producteurs américains qui ont un petit peu plus de place pour augmenter leur prix.
Anna Boëta, pour citer mon maître, en tout cas un de mes maîtres en économie, Jean-Marc Daniel, nous dit aussi arrêtez avec la consommation, parce que la consommation, quand on ne sait pas produire les produits qu'on consomme, certes, ça crée de la croissance, mais ça crée du déficit des paiements courants, et donc ça affaiblit le pays. On l'a vu, nous, en France, d'accord, où notre modèle est basé sur la consommation, les chiffres sont dramatiques, on l'a vu aux États-Unis. Donc, est-ce que ce choc que décrit Denis sur la croissance et sur la consommation n'est pas finalement bénéfique? C'est-à-dire, oui, certes, on aura moins de croissance, mais peut-être une croissance plus équilibrée.
Tout dépend de l'offre et de la demande. D'abord, sur l'offre, on voit aujourd'hui, il y a des entreprises qui arrêtent de produire en Chine ou ailleurs, parce qu'ils veulent pas payer les 130% de tarifs. Donc, il y a forcément une raréfaction de l'offre qui va s'installer à un moment donné, puisqu'on ne sait pas quand ces entreprises auraient trouvé des routes qui puissent contourner la Chine pour ramener ces biens aux États-Unis. C'est vrai que pour l'instant, on a gagné du temps, puisqu'il y a eu des stocks de précaution, et on calcule quand même entre 3 et 6 mois de gains de temps, puisque il y a eu ce orage depuis le mois de décembre, c'est pas que janvier, février. Donc il y a une question sur ça. Deuxième question sur l'offre, c'est est-ce qu'effectivement les 1,6 trillion de dollars d'investissement des entreprises étrangères aux États-Unis vont se faire, puisque c'est ce qu'on a. Peut-être même depuis, on est arrivé à 2 trillions. C'est quand même presque 3,5-4% du PIB américain. C'est vraiment énorme. Mais si on regarde le premier mandat de Trump, on a eu environ 10% de ces investissements qui se sont vraiment concrétisés dans la production, dans la création d'emplois aux États-Unis. Donc ça, c'est la question sur l'offre vraiment sur place. Et puis après, donc parce que on peut aussi avoir un choc d'offre. Après, c'est la demande. Est-ce qu'une inflation à 4,5 peut-être à l'été? Est-ce que cette inflation va faire que la demande s'ajuste? Et là, la clé sera dans les baisses de taxes de Trump. Est-ce que, évidemment, on va aller sur 300 milliards? Est-ce qu'on va aller sur 500 milliards? Est-ce qu'on va aller sur 1 trillion? Donc, je ne crois pas du tout, parce qu'on est incapable de baisser les dépenses et on est incapable de garantir au marché qu'on peut financer 1 trillion. Mais si vraiment on finance 1 trillion, ça, en fait, ça veut dire que le choc de demande n'est pas là. Donc ça veut dire qu'on retourne sur ce qu'on a eu pendant la pandémie, où on a soutenu la demande dans un environnement où l'offre était peut-être pas au rendez-vous. Et c'est là où l'inflation peut revenir. C'est plus qu'un choc de prix, mais c'est plutôt un choc inflationniste. C'est pas notre scénario central, mais c'est un scénario à la baisse ou négatif qui peut s'enclencher. Donc c'est un petit peu ça le raisonnement aussi. Bah,
excusez-moi, messieurs les gérants, mais je laisse parler beaucoup en deuxième partie, mais là sur l'économie, je voulais Denis.
Oui, il y a un point quand même sur l'investissement. Alors peut-être que ça va être simplement frictionnel, mais sur l'investissement, je pense qu'il faut aussi prendre en compte la désorganisation quand même très importante du dispositif public
aux États-Unis. Je prends un exemple d'une entreprise avec laquelle j'ai échangé récemment, qui me disait, j'avais un projet d'investissement aux États-Unis, je travaillais avec le Department of Energy pour pouvoir le réaliser. Le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus d'interlocuteur au Department of Energy. Donc, comment est-ce que je continue à monter mon projet? Et en fait, vous pouvez avoir aussi des blocages qui peuvent se faire parce que, en fait, c'est un peu tous azimuts que l'on va. Et d'une certaine manière, ça n'est pas très organisé. Et là, vous pouvez avoir des tensions qui se créent aux États-Unis. Et puis, vous avez des déséquilibres qui sont introduits. Vous avez de la contradiction entre maîtriser des flux migratoires et en même temps attirer de l'investissement. La capacité à produire n'est pas forcément au rendez-vous.
Sébastien, rapidement.
Je suis complètement d'accord sur le choc de prix et pas d'inflation. Juste un tout petit bémol. Rappelez-vous le Covid. Le Covid, la désorganisation des supply chains. En fait, quand vous mettez des tarifs et que vous les changez comme ça, et que vous mettez des tarifs très forts sur un endroit et autre, vous désorganisez la supply chain. Qu'est-ce qui s'était passé au moment du Covid? On avait créé une inflation un peu longue parce que tout était désorganisé et qu'on ne peut pas réorganiser comme ça, il n'y a pas de substitution. Donc, le temps, le prix et l'endroit où on met les choses peuvent être aussi de nature à rendre les choses inflationnistes.
Christian. Oui, il pourrait faire un choc de prix, mais il sera tout de même il sera modulé par l'énergie, par le coût de l'énergie, qui est indépendant du problème de taxes, puisque le premier producteur tout de même de pétrole, ce sont les États-Unis. Il est en train de tout faire. Et une paix en Ukraine, par exemple, rajouterait dans ce sens-là pour faire baisser les coûts de l'énergie. Ça compenserait un tout petit peu. Mais ce choc de prix, oui, devrait être passager, parce que pour enclencher ensuite une spirale inflationniste avec les salaires,
il faudrait qu'il y ait
une forte demande et il faudrait qu'il y ait un marché du travail. Et non, parce qu'on sait aussi qu'il y aura une désorganisation massive et qu'il y aura beaucoup de gens qui vont chercher du travail parce que les administrations américaines ferment. Donc, il n'y aura pas de tension sur les salaires. C'est pour ça qu'on peut être à peu près optimiste. Elles vont souffrir, mais un an.
Et c'est pour ça que la Fed ne peut pas baisser ses taux à court terme.
Moi, je pense qu'elle les baissera deux fois. J'en suis pas d'accord.
Je reviens sur...
Attendez, Anna, je peux vous poser une question? Oui, je vous interromps. Parce que j'ai besoin de votre avis d'économiste. Ce que dit Christian est très intéressant. Baisse des prix du pétrole. Mm-hmm. Est-ce que ça a un impact très fort sur l'inflation aux États-Unis?
Oui, aujourd'hui, on voit dans les chiffres du mois de mars, voit déjà que l'inflation sur les services ralentit, les loyers ralentissent, donc il y a déjà une question de demande, les biens sont relativement stables et l'essence baisse, donc évidemment.
Et donc ça a un impact direct, c'est-à-dire, imaginons, on se projette, le prix du pétrole est à $50.
Oui, sauf que ce qui compte, c'est le core CPI, donc c'est pas l'inflation totale. Certes, pour le consommateur américain... Bah oui. C'est l'inflation totale. D'accord. Mais pour les taux d'intérêt, c'est le core CPI. Et c'est de
rappelez-nous ce que c'est le core CPI.
Bah, c'est toute l'inflation et l'évolution des prix à la consommation hors les composantes volatiles, donc hors énergie alimentaire. Sans parler de l'inflation alimentaire, elle est déjà en train d'augmenter. Donc ça va encore enclencher.
Denis, dans un pays qui est trop orienté vers la consommation, comme les États-Unis, comme la France, est-ce que le fait de réduire la croissance et la consommation, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Oui, enfin, si justement c'est vecteur d'un rééquilibrage, en fait, c'est bien parce que actuellement, cette consommation, elle est associée à un déséquilibre extérieur. Si, parce que vous réduisez la consommation, vous avez la réduction de votre déséquilibre extérieur, alors à ce moment-là, vous avez réduit vos importations, et au total, c'est pas si dommageable que ça pour la croissance immédiatement, et vous vous redonnez des conditions où vous êtes de moins en moins dépendant des États-Unis, de l'extérieur, pardon. Ce qui est intéressant, effectivement, dans cette configuration, parce que vous avez accumulé des déficits extérieurs, vous devez financer la poursuite de votre croissance par un appel à l'épargne extérieur. Et le parallèle que vous faites entre États-Unis et France est tout à fait pertinent parce que vous avez aux États-Unis une position extérieure nette débitrice à hauteur de 85%. Donc les engagements que les Américains ont vis-à-vis de l'étranger sont à hauteur de 85 points de PIB en plus que les actifs que les Américains détiennent à l'étranger.
Ce qui est monstrueux.
En cas de la France, c'est 30%, c'est 30 points de PIB. Et c'est monstrueux.
Mon impression, mais je me trompe sûrement, ça ne sera pas la première fois, c'est que le grand perdant de tout ce qui est en train de passer, ça va être la Chine. Parce que la Chine n'a pas réussi à faire son virage d'une économie d'exportation vers une économie de consommation. Et là, ils vont être frappés de plein fouet. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, on dit, il y a un bras de fer entre la Chine et les États-Unis, mais j'ai l'impression que la faiblesse, elle est du côté de la Chine.
En fait, quand on écoute la Chine, c'est un peu le discours « même pas mal ».
Oui.
C'est un peu le discours « je me suis dérisqué vis-à-vis des États-Unis, regardez le poids de mes exportations en destination des États-Unis rapporté à mon PIB, a très fortement diminué, a été divisé quasiment par deux en l'espace de 10 ans. Idem, je me suis beaucoup moins exposé au titre du trésor américain, et donc il peut y avoir une dépréciation du dollar, je n'en ai rien à faire. C'est pas si vrai que ça, il faut bien regarder comment les Chinois en fait ont changé leur structure de détention de titres américains. Ils en détiennent moins en direct, mais ils ont acheté des titres d'agence
américaines. Ils en détiennent.
Mais au-delà de leur détention de stock, est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, c'est pas eux qui vont se prendre le choc? Parce que finalement, ils ont bénéficié depuis 25 ans de...
C'est eux, sauf s'ils trouvent des marchés de substitution dans lesquels écouler leur surproduction. Mmh. Et c'est là que l'on va se retrouver.
Oui, mais les marchés d'exploitation, il faut quand même... Il faut quand même qu'on ait besoin qu'il y ait la demande suffisante pour avoir les produits européens, plus les produits chinois. Oui, mais on va pas acheter 4 voitures.
Non, mais regardez la discussion qui se fait actuellement entre les Chinois et les Européens sur les mesures que l'on a mises en place sur les véhicules électriques. Okay. Et donc, qui seraient peut-être, enfin, les mesures qui seraient atténuées, enfin des mesures de barrière qui ont été mises en place qui seraient atténuées.
On va se retrouver en deuxième partie de l'émission, on va revenir sur tout ça parce que je n'ai pas pu vous laisser tout le temps de parole nécessaire, on pourrait en parler des heures et j'aimerais bien en parler des heures avec vous. On va parler évidemment des marchés, on va parler des placements, on va parler du top 3 des gérants, on va parler des tops ou de flops, à tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Bon, c'est vraiment passionnant ce qui se passe et c'est passionnant d'en parler avec des invités passionnants. On est avec Denis Ferrand, avec Sébastien Corchat, avec Christian Bito, avec Anna Boata et maintenant on va parler des marchés. Quelle semaine complètement dingue. C'était la fin du monde en milieu de semaine et puis on a appris que Donald Trump suspendait les droits de douane pour 90 jours avec tous les pays sauf avec la Chine et puis on a eu cette remontée phénoménale du Nasdaq de 12% en une seule journée. Bon, bien évidemment, quand on regarde les performances sur l'année, on est encore vraiment dans le rouge. Hein. Le CAC 40 est à -3,5, S&P 500 -10, Nasdaq -15, le MSCI World, cet indice mondial, -7,8%, le Nikkei -16%, l'Eurostox est à 0, donc pas trop mal. Alors qu'on était très en avance, rappelez-vous, on parlait ici même hein, de l'avance des valeurs européennes, du rattrapage, parce qu'on avait beaucoup de retard sur les valeurs américaines. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, Christian Bito, sur les marchés.
Ouais.
Il s'est passé, vous en parliez tout à l'heure, je vous ai interrompu, j'en suis désolé, parce que je voulais qu'on en parle maintenant, de ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Dites-nous ce qui se passe.
C'est certainement le point le plus inquiétant pour nous, les gestionnaires, parce que bon, les indices, on les voit varier, on comprend ce qui se passe avec de tels effets.
On a l'habitude.
+10, -10. Non, on n'a pas l'habitude. Ça secoue toujours. On sait très bien qu'on gère l'argent d'épargnants, de nos clients, de nos investisseurs. On parlera de l'histoire des cracks. Malheureusement, beaucoup trop. Non, vraiment, ce qu'il faut regarder aujourd'hui de très près, c'est ce qui se passe sur le marché de la dette américaine. C'est ça qui nous inquiète en cette fin de semaine.
Expliquez-nous.
Parce que, en l'espace de quelques heures, on a eu ce qu'on appelle, nous, un flash crack, c'est-à-dire que ça bouge à une vitesse absolument incroyable, phénoménale, je crois qu'il est absolument historique, sur les taux d'intérêt de la dette obligataire américaine, de la dette d'État.
Des emprunts d'État américains.
Étaient à 3,9%, et puis d'un seul coup, ils sont passés à 4,45%. Mmh. Et cette variation-là est historique, en fait, et ça fait très mal. Ça veut dire que celui qui avait des obligations perd beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont vendu des obligations.
C'est un crack.
Fait baisser le prix des obligations.
Un crack sur les emprunts d'État.
De là, certains commentateurs disent que M. Bessent, qui est le patron du Trésor américain, qui s'y connaît en marché et en gestion, parce que c'est un ancien gestionnaire, un ancien collègue, a frappé.
Tout ce que disent les Wall Streeters, c'est un ancien gérant du hedge fund, mais très mauvais. Parce que ses pertes ont toujours été dégueulasses.
Et sur les taux.
Oui, mais je pense qu'il a tout de même alerté la Maison-Blanche en disant, attention, là, on est en train de basculer sur quelque chose qui serait encore plus dramatique que -3 ou même -10% sur le Nasdaq qui se récupère le lendemain même, c'est très volatile. Non, sur les taux d'intérêt, sur le prix de la dette, c'est fondamental et on a la crainte et que des pays qui sont actuellement en guerre commerciale, comme la Chine, le Japon aussi, il ne faut pas l'oublier, mais ce sont nos grands amis des États-Unis, l'Europe, en train de négocier, jouent sur leur levier de la dette, c'est-à-dire la détention de la dette de l'État américain par l'étranger.
Mais il y a la Fed.
Cette détention, ça représente à peu près 22%. D'accord. Ça a beaucoup baissé depuis une dizaine d'années, mais c'est une soumission, en fait.
Ok, mais il y a la Banque Centrale Américaine. Elle ne va pas rester là, regarder les balles passer et puis avoir le taux d'intérêt américain 10 ans monter à 5% et pas bouger.
Pour le moment, ça s'est un tout petit peu calmé.
Oui,
est-ce que la Fed est déjà intervenue? Nous ne le saurons que quand on aura mercredi prochain la comptabilité de la Fed.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est son job?
Bah, ça doit être son job.
D'empêcher une sorte de disruption sur un marché.
Il y a un petit indice tout de même.
C'est dans son mandat.
Monsieur Powell a tout de même dit lors de son dernier discours, lors de la précédente réunion, les taux d'intérêt, je ne bouge pas parce que j'attends de voir ce qui se passe sur l'inflation. Effectivement, on imagine bien que l'indice des prix, il était bon là, 2,4, mais il n'y a pas encore tout le prix des importations et des taxes.
Évidemment. Qu'il
a. Mais il a dit, nous pourrions faire évoluer notre programme, alors pardon pour le terme technique, de quantitative easing, c'est-à-dire notre possibilité...
C'est d'injecter de la liquidité.
Voilà, d'acheter des titres sur le marché pour intervenir s'il y a une crise financière. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça n'a pas commencé? C'est le seul rempart face à cette menace, cette arme fatale. Hein. Si on commençait à vendre de la dette, le Japon ou l'Angleterre ou même la France, on ferait effondrer le marché des obligations, donc monter les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, tous les plans de Trump, toute l'activité économique, ça ne serait pas des perspectives à zéro, ça serait une vraie récession, pire, une stagflation.
C'est un message, votre cravate rose?
La cravate rose, c'est que
vous êtes positif sur la bourse.
Mais je ne peux pas, il me faut des chiffres.
Non, il faut vous mouiller. Non, Christian,
je pense que la Fed a déjà commencé à intervenir sur le marché, sinon on serait en panique totale.
D'accord,
et ça ne serait même pas les Chinois qui vendraient.
Christian.
Ça serait nous, gestionnaires de portefeuille, où on se dit, voilà ce qui peut se passer. Si dans mes portefeuilles, j'ai des obligations américaines, je commence à les vendre.
Qu'est-ce qu'on fait là sur la bourse?
On vend les obligations américaines.
Non, mais qu'est-ce qu'on fait sur la bourse?
Qu'est-ce qu'on fait sur la bourse? On attend. Alors, si vous êtes investi, vous ne bougez pas. Il est impossible de bouger dans les marchés qui, à l'ouverture, prennent ou parfois ne cotent pas. Sur le stock 50, sur le CAC 40, on ne pouvait pas coter dans les premières minutes. Donc, passer un ordre d'achat ou de vente, impossible, vous ne
bougez pas. On panique pas, ça, on a compris.
C'est la porte de saloon. Vous ne bougez pas, vous attendez. Si vous n'êtes pas investi, c'est génial parce que vous avez des fenêtres d'entrée extraordinaires, sauf si.
Vous mouillez pas.
On bascule en crise financière. Là, jusqu'au début de l'émission, nous parlions d'une crise économique. Mmh. Un peu comme le Covid, un choc économique. L'activité passe en récession, puis elle repart très vite. Et donc, on retrouve de la croissance, les marchés sont bons. Donc, ce sont des points d'entrée géniaux. Une crise financière, ça fait longtemps qu'on n'en a pas une vraie. 2008, ce n'était pas une crise financière parce que la Fed l'a arrêtée tout de suite. C'est l'invention du quantitative easing. Quand pendant le week-end de Lehman Brothers, Obama a dit à la Fed, on va inventer à M. Bernanke, on invente ça, vous achetez éthique.
Donc vous êtes prudent quand même, vous qui êtes toujours très positif, vous êtes prudent.
Facilement,
vous êtes
si
prudent.
Le Japon prenait la décision de vendre ses 1 000 milliards de dollars...
Ils ne le feront jamais.
Mais oui.
Ils ne le feront jamais, ils vont négocier.
Oui, mais la Chine, c'est la banque de Chine, elle peut le manœuvrer, mais si le marché baisse, elle a tout de suite des pertes. Les Japonais pourraient boycotter la dette américaine.
Mais ils ne le feront jamais.
Et demander aux assureurs et aux porteurs.
Ils le feront jamais.
Ça serait une crise financière mondiale.
Sébastien Korcher, j'y crois pas du tout. Sébastien Korcher.
Mieux. Alors, juste un truc sur les taux, c'est effectivement l'indicateur qu'il faut regarder, pas les actions, en fait. Hein, parce que, et d'ailleurs, c'est l'indicateur depuis des semaines que regarde Bessent et que regarde Donald Trump. Donc, ils ont été un petit peu perturbés parce qu'effectivement, ça allait dans le bon sens. Et là, tout d'un coup, c'est remonté. Trois hypothèses. La première, c'est le marché chinois, les Chinois qui auraient testé le marché. Il y a une rumeur qui dit qu'un ordre important circulerait sur le marché pour voir un peu la réaction, pour voir la profondeur de ce marché, pour voir est-ce que éventuellement
ouais, s'ils ont
montrer
une arme
que
ou pas.
Voilà, montrer que la deuxième chose aussi, c'est un indicateur qui montre qu'il y a des pertes dans le marché de certains acteurs. Ce qu'on appelle les appels de marge, les margin calls, vous connaissez le film, et que des gens sont obligés de vendre des actifs liquides pour payer leurs pertes. Et ça, c'est un indicateur de fragilité de marché, donc il faut quand même le regarder. Ce que la Fed regarde, c'est pas forcément le 10 ans. Sinon, elle serait déjà intervenue quand il était à 5% quand Trump est arrivé. Ce que la Fed regarde, c'est le taux des high yield, c'est-à-dire et la liquidité du marché. Son mandat, c'est d'assurer la liquidité des marchés, pas le prix des marchés. Et donc, en fait, la Fed, elle interviendra si, comme elle l'avait fait par exemple en 2018, si tout d'un coup, les entreprises ne peuvent plus sur le marché trouver de la liquidité, voir que les banques ferment le guichet, entre guillemets, qu'on risque un credit crunch, etc. Donc on n'y est pas du tout à ce stade-là, faut pas faire paniquer tout le monde, mais c'est un point d'attention important. Naturellement, Bessent a su expliquer, et pas que Bessent aussi, tout un tas de gens qui ont été des grands donateurs et supporters de Donald Trump, tout au long de la semaine, ont envoyé tout un tas de messages en disant « on n'a pas voté pour ça ». On a voté pour peut-être les tarifs, pour les impôts, mais pas pour ça. Donc attention, on n'y est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il est trop tard pour vendre, probablement, parce que les prix ont bien baissé. Sûrement trop tôt pour acheter. Et qu'il faut acheter plutôt quand il y a des journées un petit peu de panique, doucement, et éviter d'empiler les paris. C'est quoi empiler les paris? C'est j'achète les actions. J'achète un secteur très particulier. Non, vaut mieux être diversifié parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher véritablement.
Et on parlera d'allocation.
Et éviter de se faire embarquer dans les rallyes comme on a connu à plus 7, plus 10, qui sont généralement des rallyes de débouclement de situations spéculatives qui n'ont rien à voir avec « ça y est, l'histoire est terminée ». Tous les cracks ou pseudo-cracks ont montré qu'il y avait des rallyes de contre-tendance qui étaient des pièges, bien souvent.
Anna, on n'a pas évoqué le cours de change, élément essentiel. Quand on se projette avec ce qu'on a dit tout à l'heure, notre scénario, enfin c'est mon scénario, il sera validé ou pas, Qu'est-ce qui, on a vu, hein, là, le dollar qui le a dollar. Fortement baissé, hein, l'euro qui est monté quasiment à 1,14. Quel est l'impact de ce qui est en train de se passer sur le cours de change et quel est l'impact du cours de change sur ce qui va se passer?
Le cours de change, en tout cas l'évolution du dollar par rapport aux autres monnaies est importante davantage aujourd'hui, pas seulement par rapport à, je veux dire, à la stabilité financière, à la Fed, mais aussi par rapport à ce choc de prix. Puisque justement, avant tout ça, on se disait, bon, le dollar va compenser peut-être 5%, 10%. Mais non, le dollar rajoute un point sur la hausse des coûts des biens importés. Et puis de l'autre côté, on n'est pas sûr que la Chine, par exemple, peut vraiment déprécier sa monnaie. Donc on est vraiment dans
Pourquoi
une guerre.
Pourquoi on n'est pas sûr qu'elle peut déprécier sa monnaie?
Parce qu'en fait, aujourd'hui, le renminbi, c'est quand même un effet de confiance. D'accord. C'est plus du tout 2015. Ils veulent tout éviter que ça soit comme 2015. Et donc du coup, on peut peut-être espérer un 5%.
Donc vous nous dites quoi? Vous nous dites quoi? Que le dollar peut encore baisser? Vous nous dites
nous,
au contraire.
Nous, on pense qu'il va plutôt se stabiliser à un moment donné, puisque après ces mouvements de marché un peu de test, ou en tout cas transitoires, on aura plutôt les fondamentaux qui reviennent pour expliquer l'euro-dollar, et c'est plutôt le différentiel de taux. Et donc, le différentiel de taux justifie plutôt un euro-dollar à 1,12.
Pas du Marc, tout. Hein. Pardon, pour juste les téléspectateurs, parce que c'est important sur le dollar, vous avez cité tout à l'heure les performances des indices américains. Mmh. Ça, c'est les performances absolues.
Ouais, c'est ça.
Mais un investisseur français qui a acheté des ETF américains, il se prend une baisse encore plus forte.
Bien sûr.
Donc attention, si le dollar doit baisser, ça milite à pas trop aller acheter des actions américaines.
Denis, il y a une incohérence, c'est pas la première chez Donald Trump, c'est-à-dire que d'un côté, il veut baisser le cours du dollar, il l'a dit, hein. Et de l'autre côté, un cours du dollar fait monter l'inflation, c'est ce que disait Anna, le prix des produits importés. Et donc, et il veut baisser l'inflation. C'est incohérent, quelle est la vérité là-dedans?
Oui, là aussi, le dollar devient une arme de négociation, parce que ça, on a aussi la même question sur le rôle du dollar en tant que réserve internationale. C'est-à-dire qu'il aimerait qu'il y ait une vente du dollar qui est actuellement détenu dans les réserves des banques centrales. Et d'ailleurs, vous avez déjà un mouvement qui a avancé. Hein. Quand vous regardez les réserves des banques centrales, vous avez une très forte progression de l'or, ce qui explique d'ailleurs l'envolée que l'on connaît depuis quelques temps, et au détriment du dollar. Donc ce mouvement est amorcé, et pour autant, dans le même temps, il veut conserver un rôle international de la devise. C'est là où, en fait, je pense que c'est le dollar qui cristallise en réalité l'essentiel des contradictions qu'il peut y avoir. Oui, il y a une volonté d'avoir une baisse du dollar pour renforcer la compétitivité, ça va ajouter quelque chose vis-à-vis des droits de douane, sachant que ce qui est quand même important à regarder, c'est que le dollar s'est déprécié récemment contre toutes les devises, sauf contre le yuan, qui est quand même la devise manipulée par excellence. Et donc,
vous êtes d'accord sur le fait que c'est peut-être... Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence dans le reste. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je trouve que tout est relativement cohérent, malgré tout le bruit qu'il y a autour. Et je trouve que sur le dollar, j'arrive pas à trouver de cohérence.
C'est mon point. Là, franchement, je trouve que c'est la pierre de touche qui pose vraiment problème. Il y a vraiment cette volonté d'avoir toujours cette mainmise, d'avoir le dollar qui continue de fonctionner, parce que c'est l'exercice de l'extraterritorialité de la loi américaine qui passe aussi par le dollar. Et donc, la capacité à exercer un pouvoir, y compris en dehors de son territoire, passe par la monnaie.
Mais attendez, si je comprends pas l'idée de plus être une monnaie de réserve, ça me paraît fou, quoi.
C'est-à-dire que l'objectif, c'est plutôt de faire vendre les dollars qui sont dans les réserves actuellement pour pouvoir faire baisser initialement le dollar tout en conservant son rôle international. C'est là qu'il y a une énorme ambiguïté.
Attends, s'il baisser le dollar, il fait monter l'inflation.
Oui, bien sûr.
Parce que bon, la compétitivité, comme disait Anna tout à l'heure, il y a des produits qui ne savent pas
produire. Il fait un choc de prix. Attention, il fait un choc de prix qui est soudain. C'est exactement ce que l'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une dépréciation qui est instantanée du dollar, mais tout en essayant de ne pas se transformer en choc d'inflation, ce choc de prix qui mute en choc d'inflation, et tout en essayant de préserver le rôle extraterritorial du dollar.
Très rapidement. J'ai envie de dire, what else? S'il n'y a plus le dollar, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on rentre dans un monde, ça ne va pas être le bitcoin, ça ne sera pas l'or, il n'y en a pas assez, ça ne sera pas le franc suisse, il n'y en a pas assez, on ferait une énorme inflation en Suisse si on mettait tout
l'euro
en franc suisse. Donc pour le moment, je connais un monde, mais je suis peut-être trop vieux, ou non, ce ne sera pas l'euro. Non, l'euro, c'est une monnaie unique avec 27 pays différents, donc ça ne peut pas être suffisamment rassurant. Donc aujourd'hui, la dernière valeur refuge, c'est pour ça que c'est important et que la situation est très fragile et instable, le dernier refuge, c'est tout de même le bon du trésor en dollars américains. J'en connais pas d'autres.
Sauf la dette.
Allez, on va passer tout de suite, je me tourne vers les gérants pour leur demander, dans ce contexte actuel, aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir une gestion équilibrée, Sébastien Corchéa, qu'est-ce qu'il doit faire ? équilibré.
Alors, équilibré, c'est naturellement une dose...
Dans cette tempête.
Alors, équilibré, ça veut dire action et obligation. Obligation, s'il est sur la zone euro, à la rigueur, pour l'instant, il n'y a pas trop de danger. On a vu que les obligations en Europe bougeaient par rapport aux exigences, aux besoins de financement qu'il allait avoir, par exemple, pour l'Allemagne, sur des plans à 10 ans, etc. On n'est pas trop touché. On a même vu la dette grecque qui baissait pendant que la dette américaine montait, pour preuve qu'effectivement, il y a un mouvement de défiance. Donc, pas trop de sujets. Si on veut être prudent et qu'on se dit que les entreprises veulent être touchées, on fait plutôt des obligations avec des maturités qui sont en cours, 2 ans, 3 ans. Il y a plein de fonds datés qui continuent à être là et qui sont la bonne réponse. Sur les actions, c'est naturellement beaucoup plus compliqué. Je vous ai dit que c'était trop tard pour vendre et un petit peu trop tôt pour acheter probablement.
Donc on reste sur ces positions.
On reste sur ces positions. On fait attention en fait à l'exubérance qu'on avait observée en fin d'année, qui était les États-Unis. Je rappelle ce risque qu'il y a de dollars qui baissent et qui est pas bon quand on est un épargnant européen.
Vous avez raison de le rappeler.
Et de se dire aussi que il faut être probablement un petit peu plus diversifié dans ces thèmes, là où les gens ne l'étaient pas avant. Parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il va y avoir une récession, quelle va être la profondeur, quelle va être la durée, et donc c'est pas les mêmes valeurs.
Diversification, prudence.
Diversification, prudence, mais rester investi. Oui, c'est-à-dire, on dit terme technique, c'est dit on est neutre, parce que le profil d'investissement dépend du degré de risque, on est obligé de le rappeler, c'est réglementaire. Donc quelqu'un qui est à 50-50 dans son profil, eh bien, il a 50% d'actions aujourd'hui. Ça veut dire que depuis quelques jours, en fait, on rachète pour maintenir mais on rachète par petits bouts. Dans les achats, la priorité, c'est diversifier et revenir. Tout de même, vous avez cité tout à l'heure les performances, c'est quelque chose d'intéressant. 31 mars, avant Trump, on était à plus 3, moins 7 entre les marchés européens et les marchés américains. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'indice européen est à 0, le marché américain à moins 10. On a maintenu cet écart de 10%.
D'accord.
Donc, il s'est passé quelque chose en Europe qui est lié au potentiel redémarrage de la politique en Allemagne. On a beaucoup de retard, mais donc ça veut dire qu'il y a encore des points à combler. Donc, ne pas oublier nos marchés européens.
Top ou le flop de la semaine pour vous, Anna?
Je suis alors, et je vais essayer d'amener un top, parce qu'on en a eu assez de flops. Donc c'est plutôt par rapport à l'Allemagne, puisqu'en fait, depuis hier, on a le contrat de la coalition qui nous dit potentiellement qu'on a encore
nouvelle.
40 milliards d'euros peut-être pas financés, donc de stimulus vraiment, donc de baisse d'imposition, qui n'est pas financée par la baisse de la dépense. Et donc, ça se rajoute à 500 milliards d'euros sur 12 ans d'infrastructure, 50 milliards ou 40 milliards de dépenses.
C'est une super bonne nouvelle.
Ouais, la
super bonne nouvelle pour l'Allemagne, super bonne nouvelle.
Est-ce qu'ils vont pouvoir le voter vraiment? Mais en tout cas, c'est assez prometteur puisque c'est sur la fiscalité, sur l'investissement. C'est ce qui manquait un petit peu dans tout ce plan de... Faut juste garder la demande stable, hein, parce que sinon, après, ça sert à rien de baisser les taux. Hein.
Christian.
Le flop, ça sera un peu le homme armatué, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, on n'a pas arrêté de parler de Saint-Pierre-et-Miquelon cette semaine. D'ailleurs, on oublie de parler de l'Ukraine. Okay. On n'a pas le temps d'en parler. Et de l'Iran aussi, qui sont des problèmes importants. Saint-Pierre-et-Miquelon, star de la semaine. Alors, je ne parlerai pas du problème politique avec le projet d'envoyer des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais surtout de l'exagération dans le tableau du Liberation Day, où Saint-Pierre-et-Miquelon a été le pays le plus frappé, puisqu'initialement, on voulait lui mettre 50% de droits de douane. Et vous le savez, la méthode de calcul, je suis allé fouiller dans les statistiques des douanes américaines,
Christian.
Ils ont vendu l'année dernière, en fait, en 2024, 150 000 dollars de homards, de très beaux homards, à des restaurants branchés new-yorkais. Ils n'ont rien acheté aux États-Unis parce que c'est une toute petite île, elle va servir au Canada. Même quand ils achètent
il faut arrêter le homard
au Canada. Donc le rapport a donné 100%, soit 50% de taxes, les plus taxées du monde, avant la période maintenant de...
Je vais vous demander d'accélérer, je suis désolé. Alors, Sébastien.
Top ou flop, ça dépend votre avis personnel à chacun. C'est le départ annoncé de Elon Musk. Alors tout le monde se demande si c'est une démission, une éviction ou simplement une fin de mission, parce que pour informer tout le monde, il y a une loi fédérale aux États-Unis qui dit qu'on ne peut pas, quand on est un conseiller, parce que Elon Musk n'est pas membre du gouvernement, rester plus de 130 jours en poste. Alors Donald Trump, il essaye de changer toutes les lois, y compris celle des promos de douche pour sa chevelure. Hein, c'était
je vais dire rapidement.
Eh bien, il changera a priori pas celle-ci. Donc, Elon Musk devrait, selon la loi, partir.
Denis, rapidement, soyez sympa.
Un top, quelqu'un qui est décédé il y a 15 ans, Maurice Allais, qui avait dit on va se diriger vers du libre-échange à l'intérieur de blocs régionaux homogènes et on aura du protectionnisme au-delà. Très intéressant de voir que Chinois, Japonais et Coréens se parlent sur une zone de libre-échange. Mmh. Imaginez, Chinois, Japonais, Coréen.
C'est pas gagné encore. Hein,
c'est pas gagné, non, on est d'accord.
Allez, on passe tout de suite au top 3 de la semaine avec William Higgins qui est toujours en tête. Il y a quand même trois gérants qui sont... Il y a quelques gérants qui sont positifs, mais... William Higgins, 14,7%, Eric Blaine, 5,2%, Eric Lewin, 2,9%, et j'ai besoin d'une musique qui fait peur pour faire peur à Christian Bito. Christian Bito, j'ai du Dassault Aviation.
On garde.
Ça a bien performé, ça.
Oui, bah oui.
Près de 50%. Ouais. Microsoft.
On garde.
Saint-Gobain.
On garde.
Air Liquide.
On garde.
Michelin.
On vend.
Pourquoi ?
Voiture.
C'est mort.
Trop touché.
Keyence.
On garde les robots japonais.
Bien sûr.
On garde.
Schlumberger.
On vend. Le pétrole baisse. Pas bon.
Antasport.
On garde. Chinois. Il me fallait une valeur chinoise et on est assez positif sur la Chine.
D'accord.
On garde.
LG Electronics.
On garde.
Airbus.
On garde.
Qualcomm.
On garde.
Les bon, bus. Vous avez une valeur de traite, là. Vous avez du BYD, le constructeur chinois.
Et voilà, en taille BYD, oui, mais ça se porte
c'est pas
très,
sympa,
très bien
ça.
Tout de même.
Bah ouais, mais c'est dur, ça.
Sans Vallourec. BYD. On garde.
Qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui, Christian ?
Alors, on va acheter européen, c'est dans la logique de notre location. J'ai bien dit Europe, parce qu'on va aller chercher Rolls-Royce. Alors, ça ne sont pas, c'est pas la valeur de luxe, les Rolls-Royce, les voitures ont été vendues à BMW. Non, ce sont les plus beaux moteurs pour l'aviation. Ça va participer, bien entendu, au pari défense, qui est en train de s'équiper et de grandir dans tous les pays, Allemagne en tête. Et donc, les meilleurs moteurs d'avion sont les Rolls-Royce. La boîte est superbe. Et on profite tout de même de l'entrée boursière, parce que ça a perdu 20-25% depuis quelques jours, grâce à Donald Trump. Et c'est aussi une valeur anglaise. Vous avez remarqué tout de même, la Grande-Bretagne a toujours été mise à part dans le tableau. Dans le premier tableau que je citais avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Grande-Bretagne, on n'en parlait pas, parce qu'on leur a fait 10, ce sont les amis anglais.
Donc,
les Anglais sont les troisièmes détenteurs de dettes américaines.
Mais ils importent plus que ce qu'ils disent.
Ouais. Denis Ferrand, est-ce qu'une fois vous avez suivi un conseil d'un gérant quand vous étiez à l'émission ? Jamais. Non, vous mentez.
Ouais, si, j'ai un
Et mauvais souvenir.
Ouais, c'est
balancez le nom, balancez le nom.
Il se reconnaîtra.
C'était quelle action ?
À un moment, ça devait être Stellantis.
D'accord. Et remarquez, vous avez raison, parce que Stellantis, c'était dans tous les portefeuilles. Mais c'était un truc de dingue. Allez, une musique qui fait peur pour Sébastien Corcia. Vous avez du Bureau Veritas, n'importe quoi.
On garde.
Du Fortemoins.
On garde.
Du Dermapharm Holding.
On garde.
Et qu'est-ce qu'on achète ? Vous pouvez en acheter deux, si vous voulez voir.
J'achète Vallourec pour plusieurs raisons. Donc, je reprends une des valeurs de Christian. Voilà, c'est une entreprise qui était bonne, autrefois en difficulté, mais les dernières publications ont été vraiment excellentes. C'est une entreprise qui n'a plus de dettes. Et d'ailleurs, elle va verser incessamment sous peu, le 25 mai, un dividende d'1,50€. Ça fait 10% de rendement au cours actuel. Alors, elle a des bons résultats, elle verse un bon dividende, elle est pas chère, elle a un aspect spéculatif parce que Arcelor a pris une position de 28% dedans. Et ce qui nous intéresse dans le moment actuel, c'est que elle produit aux États-Unis, au Brésil, en Chine essentiellement, et que c'est pas moi qui le dis, c'est son président dans une interview il y a quelques semaines dans un journal, il a dit qu'il était quelque part immunisé contre les droits de douane. À la valeur a baissé parce qu'elle est sensible au pétrole, mais elle est pas sensible aux droits de douane. Donc on profite de ce moment. D'accord. Et puis on va faire une autre valeur droits de douane qui elle a baissé de 80% depuis 2002. Donc 2022 pardon, elle est revenue sur un cours de 17 ans en arrière, c'est Rémy Cointreau. Alors ça paraît complètement à contre-courant, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Elle pèse donc plus que 2 milliards. Qu'est-ce qui pourrait la faire redémarrer ? On a cité tout à l'heure les Européens et
quand vous parlez
avec les Chinois.
Vous vous tournez vers Denis Ferrand.
Parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Il a, entre autres,
alors qu'on avait dit qu'on ne balançait pas sur les invités et sur leurs défauts.
Il a parlé d'accords qui pouvaient se faire entre les Européens et les Chinois sur les automobiles électriques. Et naturellement, il y aurait une contrepartie à ça. Ça pourrait être, on l'a vu, il y a 3 mois d'attente sur les spiritueux, notamment le cognac, ça pourrait être une très bonne nouvelle. Intéressant d'observer que depuis un mois, alors que la bourse est très agitée, le cours de Rémy Cointreau l'est aussi, mais en fait il est stable. Ça veut dire pour les gérants, et d'autres valeurs, type Diageo aussi, ça veut dire pour les gérants que ces mauvaises nouvelles sont quand même
énormément
intégrées, et que peut-être il pourrait y en avoir des bonnes qui créeraient la surprise. Accessoirement sur Rémy Cointreau, il y a un nouveau président qui pourrait donner une nouvelle impulsion stratégique et une nouvelle, comme on dit dans notre jargon, equity story.
Vous en avez
Non, mais c'était assez intéressant. On a du Vallourec, on partage Vallourec.
Mais Rémi Cointreau, vous allez rentrer dedans après l'avoir écouté ou pas?
Assez positif, non. Nous, le départ de l'ancien président est plutôt un élément de risque. Ah. Sinon, je suis d'accord sur le reste, la boîte, elle est superbe.
Ouais, juste en une seconde, quelqu'un qui a un portefeuille aujourd'hui d'action, qui veut se couvrir, comment il fait? Christian Vito, très rapidement,
il appelle son gestionnaire.
Non, mais c'est quoi l'instrument?
Surtout, les options sont hors de prix. C'est-à-dire, le prix des couvertures sont hors de prix, ce qui est un révélateur de risque sur le marché.
Les assurances.
Les assurances hors de prix. Non, si on veut se couvrir, si on prend la décision, on vend.
Il vaut mieux vendre
aujourd'hui, le prix d'achat d'une option, c'est déjà 20-25%. C'est comme si on perdait 20-25%.
Sébastien, vous êtes d'accord avec ça?
Le prix d'achat des options est faramineux aujourd'hui.
Très rapidement. Des produits qui restent dangereux, qui doivent être maîtrisés, compris déjà pour être utilisés. Et en règle générale, une option, une assurance, c'est comme vous achetez pas une assurance auto quand vous avez un accident ou une assurance maison quand votre maison brûle.
Donc c'est
on l'achète quand on peut, quand on peut, mais pas quand on doit, en fait.
Merci à tous, c'était passionnant, c'était malheureusement trop court. Denis, félicitations pour votre mariage.
J'y vais là.
Vous y allez, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine. Vous nous invitez quand même pour une émission. Vous êtes même pas invité.
Il y aura du Rémi Cointreau.
Donc je peux déjà vous annoncer qu'elle sera évidemment exceptionnelle, parce que le contexte est exceptionnel. Vous pouvez me poser des questions d'économie et de placement sur marc@bfmbusiness.fr. Je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast sur toutes les plateformes pour combattre un nouveau record en 2025.